Objectif numérique, épisode 38. Au menu, un sixième défi photo, des gadgets intéressants, la photographie d'étoiles en circumpolaire, l'hyperfocale, une introduction au recadrage, on critique deux imprimantes, ainsi que le Panasonic GF6. Au micro, Stéphane Vaillancourt, en compagnie de mes deux co-animateurs, François Blanchette.
Salut Steph.
Christian Jarry.
Salut.
Et cette semaine, on a un sixième défi photo, mais c'est un défi spécial. C'est le premier défi photo où nous allons offrir un prix au gagnant. Oui, oui, peu importe si c'est un auditeur québécois, français, peu importe. En fait, il s'agit d'un abonnement au site 500pix.com, donc qui peut servir à mettre en ligne son portfolio, même à vendre des photos, je crois. Et c'est un abonnement d'un an au plan Awesome.
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 Donc, le gagnant se verra remettre un code par courriel. Je lui enverrai personnellement le code et il y aura un abonnement d'un an tout à fait gratuit. Merci aux gens de 500pix. Et si vous n'avez jamais utilisé 500pix, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Il y a des photos assez incroyables
en
sur
effet.
Ce site.
Ouais, on est membre, on est les trois membres, puis c'est assez exceptionnel les photos qu'il y a là-dessus. C'est vraiment de l'art.
Oui, et on ne parle pas des nôtres, on parle des autres.
Ouais. Ah oui.
Non, parce que les miennes sont à vendre, puis à date, non, j'ai pas eu d'acheteur.
T'as quoi, t'as trois photos là-dessus? C'est sur Flickr que t'as trois photos?
Non, sur 500pix, okay. J'ai quelques photos,
oui,
mais
c'est sur
je pense que j'en ai cinq.
OK.
Ouais. J'ai gagné quelques combats contre d'autres parce qu'il y a une espèce de concours qui se fait entre les utilisateurs. Les gens peuvent voter entre deux photos.
Deux photos se font jumeler. Je ne sais pas si c'est au hasard ou selon une thématique, des mots-clés ou quelque chose.
Il y a
chose.
La thématique.
La thématique. Mm. J'ai déjà avec, je ne sais pas si c'est ma photo. Oui, ma photo de bar, là, l'hiver à Martigny et compagnie.
Ouais,
elle a gagné quelques duels, mais c'est pas mal ma meilleure photo à vie, je crois. Sinon, les autres, c'est assez... enfin, c'est dur de comparer avec les photos qu'il y a là-dessus. Évidemment, la majorité, sinon toutes les photos que les gens publient, les photographes là-dessus, il y a beaucoup de retouches. Si vous aimez le HDR exagéré, il y a beaucoup d'HDR exagéré, mais il y en a aussi du naturel. Il y a des très belles photos. Il y en a pour vraiment tous les goûts du portrait, du paysage. Enfin, vous irez y jeter un œil. C'est 500px.com, tout simplement. Alors, le sixième défi photo porte sur les moyens de transport, donc camion, bateau, auto, vélo, tout ce que vous voudrez. Vous nous faites parvenir la photo. Et comme à l'habitude, les gens vont voter sur Flickr au bout de quelques semaines. Donc, toujours visiter les notes sur le blog pour connaître les dates limites et ensuite, évidemment, pour connaître le gagnant ou la gagnante. Maintenant, on va vous parler de deux petits gadgets. En fait, c'est François qui va lancer le bal avec le BioLite. Mais qu'est-ce que c'est le BioLite et en quoi ça aide la photo?
Le BioLite, en fait, c'est... comment je pourrais dire? C'est quelque chose qui va faire que vous allez être populaire ou pas. En camping.
Oh.
Pourquoi? Parce que c'est une introduction. On introduit la technologie dans le camping. Il y a des gens qui partent en camping un week-end qui n'ont pas vraiment envie de faire affaire avec la technologie, alors que d'autres se disent « Oh non, il n'y a pas de prise de courant, je ne pourrais pas recharger mon iPhone. »
Ma vie est fichue. Mon week-end est fichu.
Oui. Eh bien non, c'est fini ce temps. le BioLite, en fait, ce que c'est une espèce de petit réchaud se faire de la bouffe qui est alimentée avec des brindilles. À date, ça semble bien normal. Ça ressemble à n'importe quel petit réchaud
des
de camping.
Des brindilles d'herbe ou
de
bois?
Non, de bois.
Okay,
des cocottes de pain. N'importe quoi qui se brûle. Okay, c'est tout petit. Là. Ça a à peu près la grosseur d'une bouteille d'eau, je dirais, pour de cycliste. Là. Peut-être un petit peu plus gros. Quelque chose comme ça. On parle à peu près des mêmes dimensions.
Mm-hmm.
Ce qui est vraiment spectaculaire avec ce truc-là, c'est qu'il y a un convertisseur thermique en électricité dans ce truc-là. Il y a une prise USB après ça.
Okay.
De 5 volts. Et ça permet d'alimenter des petits appareils. Un appareil photo, son iPhone, d'autres trucs que vous pouvez imaginer qui sont alimentés ou rechargeables plutôt par prise USB. C'est vraiment... Moi, j'ai vu ça chez un de mes amis la semaine passée. Je suis vraiment tombé des nues parce que j'étais là, ouais, OK. Ça, là, convertir la chaleur en électricité...
C'est assez cool.
C'est ouais. très cool. Et puis d'ailleurs, en allant sur le site de BioLight, on se rend compte que ils font pas juste dans le réchaud de camping, ils font aussi dans le réchaud pour les pays du tiers-monde. Donc, c'est la même technologie, on est un petit peu plus gros. Puis ça aide vraiment, apparemment. Donc, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est quelque chose que je me servirais en camping, c'est sûr.
Ben, en fait, oui, parce que j'allais dire, moi, en vacances, j'apporte une batterie d'appoint que j'ai à peu près 10 000 milliampères là-dedans. Mais ça fait pas de chaleur. Donc, ça, c'est pratique parce qu'en plus, ça te fait un espèce de petit feu de camping.
Mais c'est ça l'affaire. C'est que tu peux faire bouillir ton eau pour faire cuire tes pâtes pendant que tu recharges ton téléphone.
Absolument.
C'est exactement à ça que ça sert.
Tant que tu renverses pas ton eau de pâte sur ton téléphone.
Ouais.
Ça, ouais.
Ça dépend. Si tu as celui qu'on a parlé.
Le Sony Xperia Z.
Il n'y en a pas de problème.
Eh oui, en effet.
Ouais. Donc, le truc est en vente dans plusieurs endroits où on peut acheter des produits plein air. Ça se vend en dollars canadiens, 130$. Et en euros, je crois que c'est quelque chose autour de 90€, quelque chose comme ça. Okay. J'ai vu le prix, mais je ne me rappelle pas exactement.
Bon, disons, mettons 100€, c'est quand même raisonnable.
Oui. Ça pèse 1 kg, donc c'est pas trop lourd, c'est pas quelque chose de hyper léger, mais pour ce que ça donne comme rendement, c'est excellent parce que là on peut se faire à manger et recharger ces trucs. Fait que le poids, je trouve que c'est quand même bien. Si on au niveau du côté très technique, la prise USB a fourni entre 2 et 4 watts à un rythme ou comment je pourrais dire une cadence de 5 volts.
OK.
Le temps de charge. On va donner un exemple. En disant qu'on a un iPhone 4S, c'est ce qui est indiqué sur le site.
Ça tombe bien, c'est ce que j'ai.
Ben voilà. Donc, ça va te prendre 20 minutes de charge pour avoir 60 minutes de temps d'antenne, de temps pour parler avec quelqu'un.
C'est pas mal.
Ouais. Ben, c'est suffisant pour...
Mais en fait, là, il faut faire quoi? x9, parce que je pense qu'il y a 9 heures d'autonomie pour parler au téléphone.
Non, mais tu sais, pour une pleine charge,
même
mal pris au 20
minutes. Ben oui, 20 minutes, même 10 minutes, c'est amplement. Tu as 30 minutes pour parler au téléphone.
Oui, puis du côté pratique, bouffe, ben en 20 minutes, c'est en masse pour faire bouillir son eau parce que ça prend juste 4,5 minutes pour faire bouillir un litre d'eau.
Ah bon,
avec 46 grammes de bois.
Oh mon Dieu, c'est très peu.
C'est très peu. Effet. Pourquoi c'est très peu? Parce que le système de la faction qui fonctionne, il récupère la chaleur avec un petit tuyau de cuivre. Ce tuyau de cuivre-là permet de régulariser la chaleur qui entre dans le transformateur électrique. Thermoélectrique, excusez. Et puis, une fois que la chaleur est entrée et que l'électricité est produite, va activer un ventilateur qui va changer de vitesse de temps en temps pour donner plus de vivacité au feu. Donc, c'est ça qui fait que c'est super efficace.
OK. Donc, le ventilateur alimente le feu.
Exactement.
Okay.
Wow. Oui.
Ah, c'est bien pensé.
C'est ça qui rend ça vraiment le truc efficace. Et puis, bon, ben l'électricité se divise aussi dans le port USB.
Eh bien, si je faisais du camping, je m'en achèterais un, c'est clair.
Je pourrais revenir sur le sujet parce que le week-end prochain, je pars en camping avec le dit ami qui a le truc.
Ah, ben oui.
Donc, n'en déplaise à ma copine, je vais pouvoir recharger mon téléphone en camping.
Ah, ben super.
Alors, voilà. C'était le petit bidule.
Et Christian, toi aussi, tu as un gadget cette semaine, le LED Light Cube, donc un cube de lumière DEL.
Oui, ben en fait, c'est utilisé comme, si on veut utiliser, au lieu d'avoir une lampe flash ou une lampe vidéo, c'est un cube qui fait les deux. Au lieu de Kickstarter, c'est Indiegogo, mais pour ceux qui savent, c'est le même concept, c'est la même chose. C'est pour pouvoir financer un projet quelconque. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça te permet d'avoir un flash à pleine puissance de 15 frames par seconde. Fait que ça veut dire qu'on est capable de faire quand même... 15 flashs par seconde, qu'on pourrait dire, oui, dans le fond. On peut aller jusqu'à... si on prend des photos avec sa caméra, c'est jusqu'à 1/8 millième de seconde et le flash va fonctionner quand même.
OK.
Oh, ça, c'est très rapide.
Ben
c'est
oui,
très
parce que rapide. D'habitude, c'est 1/250e.
Pas sur ces genres de flash-là. Ça, non, c'est d'autres choses. Mais...
Ah oui, OK.
Mais oui, c'est vrai ce que tu dis aussi pour des flashs Cobra, c'est un fait, c'est 250. Il te permet, c'est ça, il y a une batterie à l'intérieur, tu peux...
Oh, mais attends, excuse-moi parce que je suis sur la page en même temps, ça dit de 1/8 millième jusqu'à 30 secondes, donc ça peut rester allumé ouais. pendant 30 secondes, le temps de faire une photo de ouais. longue exposition
Tout à fait.
Ou quelque chose comme ça,
OK. Non, c'est assez incroyable comme affaire.
Ouais, polyvalent.
C'est très, très polyvalent, on peut... Bon, c'est ça, il y a une batterie à lithium-ion à l'intérieur, de haute capacité, on peut... Je sais pas trop comment que je pourrais décrire ça. C'est que, de près ce que je comprends, c'est qu'on peut prendre certains des parties des lumières et les changer, en enlever, en mettre...
Les reconfigurer.
Ouais, ben ce bout-là n'est pas complètement clair. Il faudrait que je voie, là, mais en tout cas, c'est assez puissant, là, tout ça. Mm-hmm. Fait que dans le fond, on peut l'utiliser autant comme, vu, tu sais, 30 secondes pour illuminer une chose ou un flash, ben, ça peut utiliser pour ton vidéo autant que pour... de la photo.
Donc, c'est le pont. C'est carrément un pont entre les deux mondes.
C'est ça. Mais en fait, ce que tu peux faire, ce qu'il dit, c'est que tu peux en jumeler plusieurs, faire des light banks. Là. C'est donc pour faire peut-être un genre de petit mur de flash. Là,
ouais,
si
ouais.
Veux, là,
ou quoi. D'éclairage.
Ou d'éclairage,
en continu.
Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Puis c'est ça. C'est pas donné. On parle de 420$. C'est pas donné, mais c'est pas si mal que ça. Parce que si on regarde un flash Cobra, le plus gros, je crois, qui est environ 400 ou 500$. Mm-hmm. Fait que si tu fais un parallèle par rapport à ça, ça te prend, dans le fond, juste un trépied pour. Ça, avec, c'est pas extrêmement dispendieux. On a peut-être une centaine de dollars. Fait qu'on se ramasse avec un flash, on se ramasse avec. Une lumière pour ton vidéo, je trouvais que c'est quelque chose qui était assez intéressant.
Faut voir la puissance, tu sais, comparé à un flash traditionnel, mm-hmm. ça se compare comment? Est-ce que c'est aussi puissant ou pas? La lumière aussi, est-ce qu'elle va être aussi belle?
Ouais.
Est-ce qu'il faut la diffuser beaucoup?
Ben, c'est sûr que si c'est LED, ça va probablement être un petit peu plus froid que chaud. En partant.
Mais ça va être une lumière qui va ressembler à celle d'un flash
d'après
Cobra,
moi, oui.
Parce que c'est DEL, donc c'est le même genre la même température Kelvin.
Les lumières d'aile, le gros problème qu'on vit en vidéo, c'est la température de couleur.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de différences entre de la bonne qualité et de la mauvaise qualité.
Ouais, j'en doute pas.
C'est pas pour rien qu'on puisse acheter une lumière vidéo à 200$, même des fois moins que ça. C'est parce qu'il y a des teintes de vert, de magenta. C'est pas balancé pour des températures de couleur déterminées
okay.
comme on a dans les appareils photo.
Ah, je vois.
Quand on met le setting à indoor ou intérieur, ça équivaut à 3200 degrés Kelvin.
Ouais.
Si on tombe avec un éclairage de mauvaise qualité, ça sera pas à 3200.
On peut être à 4200.
Oui, ça peut tirer sur le verre, ça peut tirer.
Ah, ouais.
Donc, c'est...
Puis c'est pas indiqué nécessairement la température en Kelvin
non.
dans le manuel.
Ceux qui le font bien, ils vont se vanter, ils vont dire que c'est balancé parfaitement.
Ah, c'est ça.
Ceux qui le font pas, ça coûte moins cher, ben ils vont pas le dire, c'est
ouais,
tout.
Ouais, ouais.
Tu vois, je regardais pendant que tu parlais, c'est 300 watts par banque. Mais comme tu peux les connecter ensemble, ben tu peux passer de 300 watts, tu en achètes un deuxième, tu tombes à 600, tu en achètes 4, tu es à 1200.
Ouais, ouais, très bien ça. Mm.
Fait que c'est quand même assez intéressant.
Et là, pour la campagne de financement, ils sont à tout près de 40 000$, mais au moment de mettre en onde, la campagne va être terminée. En
de
tout cas,
toute façon, ben, comme tous les produits, s'ils arrivent à avoir leur... budget, ben éventuellement, ça va être possible de l'acheter quand même.
Oui, exactement.
Malgré qu'on n'ait pas participé à la campagne de financement. En tout cas, je sais pas. Je trouve que pour avoir moi-même magasiné quelques flashs sur trépied, je trouve que le rapport qualité-prix par rapport à la fonctionnalité, tout ça, est très intéressant pour mm-hmm. le prix. Fait que gardez l'œil. Quand l'épisode va sortir, peut-être qu'on vous allez avoir la bonne nouvelle puis que ça va être disponible à ce moment-là ou d'ici quelques mois.
Ouais, absolument.
On l'espère parce que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine.
Mm-hmm. Parfait, merci bien. Et là, François va nous... Là, on tombe dans le plus technique un peu. Ben, peut-être pas si technique, mais François va donner quelques petits trucs pour de la photographie d'étoiles en circumpolaire.
J'aurais aimé ça l'avoir avant, celui-là, parce que... J'ai essayé pendant mes vacances avec, comment pourrait-on dire, un degré assez élevé d'échec.
Ça prend quand même un minimum d'équipement. Je suis tombé sur un site, en fait sur un blog. C'est un certain Arnaud Thierry qui vient de Saraltrophe. Ça, c'est en Alsace. C'est vraiment pas loin de Strasbourg en France. C'est à peu près une heure à l'ouest de Strasbourg. J'ai regardé Google Maps là, pour tout vous dire ça.
Bien parce sûr. Que,
oui, je suis allé en Alsace, mais pas à Saraltrophe. J'avais aucune idée c'était où. J'avais une petite idée avec le nom, là, que c'était en Alsace, mais bon, sinon... donc, le monsieur en question fait des cours de photo gratuits en les filmant. Il fait des capsules vidéo. C'est super bien fait. Une de ces capsules, c'est la photographie d'étoiles en circumpolaire. C'est quoi la photographie d'étoiles en circumpolaire? C'est les fameuses photos que vous avez vues sûrement un jour ou un autre du ciel étoilé en rotation une longue exposition, ce qui fait que l'étoile laisse sa trace dans le ciel. Il y a des gens qui ont vraiment la technique parfaite pour faire ça. Il y a beaucoup de post-production aussi pour que ça soit joli. N'empêche que la technique de base pour le réaliser, ça se fait très bien. C'est de niveau facile, selon Arnaud. La vidéo dure, je pense, une dizaine de minutes, puis il explique vraiment de A à Z quoi faire et quoi pas faire pour réaliser ces photos-là. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo-là. C'est hautement intéressant. Moi, j'ai aucune
notion
de photographie de ciel. Puis vraiment, ça me donne envie. En tout cas, quand je vais arriver... et j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, lui, ce qu'il a fait pour nous montrer tout ça, il a trimballé 20 kg de matériel sur son dos. C'est quand même beaucoup. Je pense qu'il y a 3 ou 4 appareils photo, trépied, batterie, caméra vidéo, pour qu'on puisse voir ce qui est filmé.
OK. Et pour ceux qui aiment aussi répliquer l'équipement, qui aiment beaucoup parler d'équipement, est-ce qu'il dit... Les appareils, justement?
Oui, en début de vidéo, il explique ce qu'il a utilisé comme appareil.
Ah oui, ben oui, rappel du matériel. Ben, en allant sur le site, on publiera le lien. Là. Oui. Il y a vraiment tout l'équipement. L'équipement est listé là, avec des liens même.
Tout à fait. Non, c'est super génial. Bien expliqué. Très, très, très généreux de sa part, parce que c'est quand même des trucs... c'est des petits secrets de photographe,
ben
des
oui.
fois. Là,
ben
mais
oui.
lui, non, aucun problème. Je vais vous dire comment je fais ça. Très, très, très talentueux, le gars.
Il y a même un logiciel spécialisé, je pense, hein, pour sa post-production.
Oui,
c'est ça que je vois. J'espère que je te devance pas. Dans
non, pas du tout. Mais... j'allais en parler plus tard, mais ça s'appelle
Star Max.
C'est là devant toi, ouais. Star Max. Ce qu'il faut retenir, là, allez voir la vidéo, écoutez ça, parce que j'aurais beau vous expliquer moi-même, ça sera pas aussi intéressant que ce que le gars fait. Ce qu'on n'aurait pas la bonne idée de faire en partant, ça serait de garder le bruit. Non, il faut garder le bruit. Parce que si on enlève le bruit en post-production que les photos font, on risque d'effacer des étoiles quand même.
Ah oui, hein?
Parce qu'un pixel, ça peut être une étoile dans ce cas-là.
Oui, c'est vrai, il faut y penser.
Oui. La mise au point, parce que on a déjà parlé hein, comment faire la mise au point dans le noir. On avait donné quelques trucs. Si on se retrouve avec un ciel, on ne peut pas aller faire la mise au point électroniquement, il faut la faire manuellement.
Ouais.
Il s'agit de faire la mise au point juste un peu avant l'infini sur sa bague. Si on va complètement à l'infini, on va être flou. On va dépasser le maximum du foyer. Donc, il faut revenir un petit peu. On va avoir un ciel clair à ce moment-là.
Mais tu vois, il y a certains objectifs qui ne l'indiquent pas, hein, comme moi, mon nouveau Tamron. Là.
Parce que tu as une bague électronique. C'est un potentiomètre, en fait. Donc, non, tu peux pas le savoir, mais tu devrais avoir une indication à l'écran.
Oui.
Qui, avec le petit signe infini qui apparaît une fois que tu arrives au bout, donc tu reviens un petit peu, tu devrais être capable d'avoir ton foyer avant l'infini.
Intéressant.
L'étoile polaire doit être située à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Sinon, ça va être difficile d'avoir un beau résultat. Si vous avez un appareil Canon, vous pouvez installer Magic Lantern qui va vraiment vous donner un paquet de fonctions additionnelles pour faire votre photo.
Ça, je suis tenté de le mettre sur mon XSI, mon 450D qui ne me sert plus. Je pourrais m'en servir pour bidouiller cet appareil-là. Parce que j'avais déjà essayé de le vendre quand même pas cher. Puis
je le ferai parce que vidéo, tu vas tomber avec le vidéo puis tu vas tomber avec des modes de vidéo assez intéressants aussi.
Ça va me rajouter un mode vidéo?
Absolument.
Ben, OK. Ouais. Je suis vendu. Ah ouais. Et je vous en reparle.
Si
après.
Le processeur de XSI peut faire. Pas sûr qu'il peut faire du HD, mais ouais, ça va être indiqué sur le site de Magic Lantern.
Ah, ben,
qu'est-ce qui est supporté.
Ce sera mon projet cet automne pour les journées pluvieuses.
Ouais. Donc, allez voir le blog de Arnaud. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Et puis, vous allez tomber aussi sur d'autres cours qu'il donne. Sur d'autres techniques de photographie, comme par exemple, une que j'ai écoutée cet après-midi, comment faire de la photo en plein soleil.
Mm-hmm.
Ça a l'air facile, en se disant, ben, il y a plein de lumière, ça
non,
va être beau.
Non,
à midi, c'est le pire moment pour prendre sa photo, puis lui, il explique quoi faire pour limiter les dégâts.
Et faites-le regarder à votre conjoint ou conjointe pour que la personne comprenne que vous ne pouvez pas nécessairement aller là faire de la photo à ce moment de la journée.
Ouais. Ou au producteur qui m'engage. Quand il me dit, ben il faut qu'on filme là, ben je dis, midi, ce sera pas beau. C'est ça.
Alors, avis aux producteurs télé ou...
Ouais.
Ceux qui se marient, sortez pas de l'église à midi, mariez-vous avant ou après.
Avec vos robes blanches, là, et
Parfait. Et maintenant, mesdames et messieurs, on arrive à un sujet dont on veut vous parler depuis longtemps, mais en fait, dont je veux vous parler depuis longtemps. Et avec mon âme charitable, j'ai laissé Christian faire la recherche à ma place. Oui. T'as insisté.
C'est un défi.
Dans les échanges courriels, il a dit non, je vais le faire. J'ai dit OK, pas de problème. Alors voilà, Christian, présente-nous qu'est-ce que l'hyperfocal.
Ben, l'hyperfocal, de la façon que Stéphane m'en a parlé, il est très bon. Fait que vous... Non.
ça aurait pas été correct.
Non, vraiment pas. L'hyperfocal, ce que ça sert, c'est ça sert à vérifier quel va être ton focus dépendant de l'ouverture. Et quelle va en être la profondeur de champ résultante et également bon, le piqué, le sharpness, dans le fond, que tu vas avoir dépendant de justement de la dite profondeur de champ.
Mais en fait, ça te dit où ta zone de focus commence puis où elle va finir.
Exactement, exactement ça.
Hey, je suis bon pour vulgariser.
Oui, tout à fait. Ben, ça va être je pense que ça va être à trois parce que c'est quand même complexe. C'est quelque chose qui est un peu complexe à expliquer.
C'est très, très théorique, mais un coup qu'on sait ce que ça fait, ça peut être utile. Non, mais j'allais juste donner un exemple. Mais
Vas-y.
Oui, OK. Ben, admettons que vous voulez photographier un lac ou la mer ou peu importe et qu'il y a un bateau dans le sable. Pas nécessairement amarré, mais qui est vraiment accosté, si on veut, sur le rivage. S'il est vraiment au début de la zone au focus, on va dire qu'il est au point d'hyperfocal, si on veut, parce que c'est là que le focus commence. Mais tout ce qui reste après aussi, qui est au focus, là, pour la profondeur de champ que vous obtenez, ça fait partie aussi du calcul de l'hyperfocal. Mais si vous allez voir sur Wikipédia, il y a des formules mathématiques vous faire tomber la mâchoire, c'est incroyable.
J'ai un site, moi, qui donne un outil pour le calculer, qui est beaucoup plus simple à utiliser.
Oui, absolument.
Puis, c'est ça, mais ce qui est complexe aussi à expliquer, c'est que dépendant de l'objectif qu'on utilise, il va avoir aussi des effets complètement différents. Un objectif très, très large va avoir un objectif très large avec une ouverture très
fermée.
Va avoir une plus grande profondeur de champ. Par exemple, si on utilise un zoom de 18-55, tu vas avoir une plus grande profondeur de champ à 18 mm avec une ouverture à 22 que à 55 mm avec une ouverture à 5.6. Même moi, là, je vous le dis, tu sais, je vous l'explique, je le comprends, mais j'ai un peu de misère à le visualiser.
Pour ça, il faut se servir d'un site dont j'ai déjà parlé, qui est le DOF Master, le Depth of Field Master. Là, vous allez entrer votre appareil, votre objectif, la focale que vous avez choisie et l'ouverture, et là, vous obtenez la profondeur de champ résultante. Et à partir de là, ça va vous dire à quelle distance aussi vous êtes du sujet. Si, admettons, vous photographiez, comme là sur le site, ils montrent des rochers. Si vous photographiez un rocher, vous êtes à 3 mètres du premier rocher. Allez sur Depth of Field Master, entrez vos données avec votre profondeur de champ, la focale, etc. Et là, il va vous dire, et à la limite, vous allez pouvoir déterminer quelle profondeur de champ ou quelle focale ça vous prend pour que le focus commence à 3 mètres, à ce premier rocher-là, puis se terminer, disons, si le dernier rocher est à 20 mètres en avant de vous, se terminer à 20 mètres pour que le reste commence à être flou. C'est quelque chose à utiliser.
C'est assez complexe. Je vais donner un exemple vraiment pratico-pratique de ce que tu viens de dire. Assumons que notre longueur focale est de 24 mm, que notre ouverture est de f11. Mm-hmm. L'hyperfocale est de 2,7 mètres. Ce qui est à dire que tout jusqu'à 1,35 mètres vont être au focus jusqu'à l'horizon. Fait que c'est pas, tu sais, comme vous pouvez voir, malgré le fait qu'on l'explique, qu'on le voit, c'est pas particulièrement facile. Je trouve que les sites qui le calculent, celui que j'ai trouvé était quand même assez bien aussi par rapport à ça, ou ce qui te le montre visuellement, qu'est-ce qu'il y en est, comment le calculer, etc. Allez le voir. Mm-hmm. Ça va vraiment être la meilleure chose. On voulait quand même en parler parce que c'est quelque chose qui est en photographie, qui a sa pertinence. Puis, c'est important de savoir, justement, comme disait Stéphane, tu sais, si vous voulez avoir vraiment, être sûr que votre sujet dans votre photo est au focus, il va peut-être falloir que vous poussiez un peu plus loin votre méthode de prendre votre photo pour être sûr et certain que ça soit. Il y a toujours la bonne méthode essai et erreur qui fonctionne également.
C'est ce que le numérique amène.
Exactement. Ouais. C'est le gros avantage avant du numérique. Ouais. Fait que, utilisez-le, c'est sûr et certain.
Mais imaginez le travail que le photographe devait accomplir avant parce qu'il n'avait pas droit à l'erreur ou parce que sinon il allait le savoir peut-être une semaine après, tu sais. Mais essayez-le quand même. Allez sur doffmaster.com. Ça, c'est un bon outil pour vous donner une idée à partir de quelle distance votre zone de mise au point, de netteté va commencer et où elle se termine ou selon votre ouverture, etc.
Puis encore là, comme je disais, même la grosseur de votre capteur va influencer aussi par rapport à ça.
Oui, c'est pour ça que vous devez, dans DoffMaster, vous devez entrer le boîtier, exact, l'objectif et les données. Là, où est votre sujet? C'est quoi votre ouverture, votre focale? Et ça change constamment la zone de mise au point, justement la profondeur de champ.
On va mettre les deux liens de toute façon là, pour que vous puissiez l'essayer. Mais
définitivement.
Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez pour le fun. Je suis curieux de savoir si quelqu'un va l'essayer. Parce que moi, bon, les fois où ce que j'ai eu quelque chose du genre à faire, je ne l'ai pas calculé. Je l'ai testé avec la caméra, puis je regardais c'était quoi le résultat, puis ça faisait le travail. On peut l'utiliser comme tel. Mais je trouvais qu'on en a discuté les trois, puis c'était quelque chose quand même qu'on voulait discuter avec vous, qu'on voulait apporter. J'espère que ça va être un peu plus clair, mais je vous conseille, pareil, je sais que l'article est en anglais, si vous êtes capable de lire l'anglais, on peut peut-être essayer de voir si je pourrais pas le trouver en français. Je n'ai pas trouvé rien d'aussi solide que celui-là et clair, parce que je n'ai lu plusieurs des articles, mais il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas pour l'expliquer. Là.
Non,
celui-là, là, je l'ai bien compris, mais si je vous conseille quand même d'aller le relire, et probablement plus qu'une fois pour bien comprendre.
Mais comme je disais, n'allez pas sur Wikipédia, ce ne sont que des formules mathématiques, à moins que vous soyez vraiment un expert en formules mathématiques complexes.
Vous avez la base des maths.
Oui, mais sinon, ça donne absolument rien d'aller là. Malheureusement, c'est pas un photographe, c'est un mathématicien qui a écrit l'article Wikipédia, c'est clair. Ensuite, on va retourner à François qui va nous donner une petite... Une présentation, une introduction au recadrage.
Les gars, ceux qui ont pris des cours de photographie ou ont écouté Objectif numérique, ont entendu parler de composition et recomposition. On en parle quand même assez souvent.
Mm-hmm.
L'idée, entre autres, là, c'est d'éliminer des parties de la photo qui attirent trop l'attention, qui ne sont pas intéressantes. Le recadrage, la photographie numérique nous permet de le faire assez facilement. C'est-à-dire, on agrandit l'image pour éviter les parties qu'on n'aime pas.
Et le meilleur exemple, c'est pour ceux qui les ont vus, c'est mes photos d'insectes de cet été. C'est constamment recadré parce que j'ai pas d'objectif macro. Donc, je peux pas aller assez près de l'insecte. Puis, je vais vraiment au plus près que la mise au point manuelle me permet de faire.
Ouais.
Et après, je recadre parce que c'est impossible sinon. Et d'ailleurs... je vais peut-être me payer un troisième cadeau de fête.
Ah, bon.
On verra.
Bon.
Non, de Noël, on verra.
Donc, la conversion, en fait, le recadrage, ça nous permet de faire des conversions photographiques qu'on ne penserait pas faire des fois. Souvent, on s'installe avec notre appareil photo puis on fait des cadrages verticaux. Parce qu'on trouve que les éléments se placent mieux verticalement, oui. Bien, on se rend compte qu'il y a un élément horizontal qui peut apparaître dans la photo des fois. C'est-à-dire, comme par exemple, il y a une photo que vous pouvez voir sur notre site qui explique très bien ça. Il y a une table avec des objets dessus. La photo a été recadrée horizontalement dans la photo verticale. Donc, on parle le haut et le bas. Ça devient une toute autre photographie avec le je dirais pas le sujet, mais les objets mis en valeur autrement.
Mm-hmm.
Donc, ça, vous seriez surpris de voir vos photos, ce que vous pouvez aller chercher comme élément dans un nouveau recadrage. C'est vraiment intéressant.
Et ça n'a pas toujours besoin d'être de partir d'une photo verticale et la mettre à l'horizontale ou vice-versa.
Non,
ça,
c'est
ça peut
un
être
exemple.
Juste... Oui, oui, c'est ça.
C'est aller recadrer dans une photo.
Oui, oui.
Ouais, carrément. L'avantage, idéalement, il faut essayer de garder le ratio. Mm-hmm. Hauteur-largeur, idéalement. Ça, c'est surtout si on veut imprimer ces photos.
Oui.
Parce que sinon, ça devient non-standard. On se ramasse avec des impressions avec des bandes blanches ou noires d'en haut ou en bas. Ça, c'est
laissez
si le logiciel l'accepte.
C'est ça. Ben, ouais, c'est ça. Pour le web, ça se fait bien parce qu'il n'y a pas vraiment de format... si on veut, on a plus de liberté au niveau du format, mais si vous voulez imprimer vos photos, là, ça devient vraiment important de vérifier le ratio, justement. Et pour vérifier le ratio, si vous avez un logiciel qui vous permet de voir le nombre de pixels en largeur et en hauteur, vous divisez un par l'autre, puis vous regardez ce que ça donne, justement. Puis quand vous allez déterminer que la largeur devient votre élément
souvent,
principal.
Souvent, les logiciels ne nous rendent pas ça compliqué de même. Ils
disent
carrément maintenir le ratio, puis
ouais, c'est ça. Oui,
on recadre, puis ils maintiennent le ratio
oui,
sans
c'est
calcul.
Vrai. En effet.
Oui, Aperture, il maintient le
Lightroom, le Photoshop.
Ah oui, c'est
exactement.
Vrai.
Okay. Puis il me dit même, moi, si je la coupe, il dit parfait, tu prends ta photo, elle a 18 mégapixels, quand tu vas l'avoir coupée, il va rester 6 mégapixels.
Ah, ça,
genre.
C'est bon.
Waouh, c'est bien.
Okay. Oui, j'adore ça, parce que justement, ça donne une idée. Ouais, OK, non, là, je suis allé trop loin, je vais trop en perdre probablement si j'arrive pour l'imprimer.
Une autre utilisation du recadrage, c'est de retrouver la règle des tiers.
Mm-hmm.
Disons qu'on a pris quelques photos, puis on n'a pas utilisé cette règle-là, puis on se rend compte qu'en recadrant la photo, on peut retrouver cette règle-là.
Ouais, ouais.
Encore une fois, on se retrouve avec une photo bien plus réussie, beaucoup plus intéressante. On peut, je le mentionnais en introduction, éliminer des objets, des ombres, tu sais, des éléments qui sont vraiment pas intéressants de la
des
photo.
Des couleurs vives.
N'importe quoi, quelqu'un qui se tenait là par hasard.
Ouais.
Si on n'a pas les moyens d'aller photoshopper, d'enlever des...
Ça va bien plus vite, honnêtement, en rognant qu'en recadrant.
Ouais.
Que...
Ouais.
Si ça n'a pas pu être fait au départ,
c'est
ça. Encore plus vite.
Exactement.
Le recadrage
l'idée
peut aider
du recadrage,
beaucoup.
C'est à la prise de photo.
Ouais.
Si on... Ça arrive des fois qu'on oublie des affaires qu'on ne voit pas, qui sont une fois qu'on arrive sur l'écran, on voit des trucs qu'on n'avait pas vus.
Mm.
Ben là, on peut le faire. Mais l'idée, évidemment, c'est de sauver du temps. Là. Le recadrage, c'est pas juste en post-production. C'est évidemment à la prise de photo elle-même.
Ouais, ouais. Et profitez-en si vous photographiez des éléments fixes comme un édifice ou... des trucs du genre, là, essayez à la verticale, à l'horizontale. Profitez-en parce que votre sujet ne bouge pas et ça va vous sauver du temps de post-production.
Ouais. Dernier avantage du recadrage, c'est on peut changer l'aspect. Ça, on vient d'en parler. Là.
Oui.
Si on n'aime pas le ratio de la photo, parce qu'on trouve que ça serait plus avantageux d'avoir une super horizontale, là, quasiment quelque chose comme une photo en panorama, ça peut valoir la peine si évidemment, on ne se dirige pas en impression.
Ouais, ouais.
Sinon, on peut y aller en impression puis découper à la main sa feuille. Ça donne aussi un résultat. Il y a des cadres qui se vendent dans le commerce qu'on peut carrément mettre des photos qui ne sont pas standards du tout.
Oui, c'est vrai.
Donc, amusez-vous, on peut le faire. Fait que ce qui est important de retenir sur le recadrage, c'est que ce n'est pas permanent. Du moment qu'on utilise des logiciels comme Lightroom, par exemple, qui ne vont pas affecter le fichier original.
Mm-hmm.
Seulement une copie de travail que ça va affecter. Donc, pas de problème. On peut revenir si on s'est trompé, si on a trop recadré. Il ne faut pas trop aller chercher le recadrage trop loin. Ça prend beaucoup de mégapixels pour se rendre assez loin sur le recadrage. Quand je parle d'aller loin, c'est zoomer là, dans l'appareil, dans le fichier.
Ouais, ouais.
Sinon, aussitôt qu'on a une zone floue ou qu'il y a du bruit, craignez pas, ça va apparaître tout de suite.
Tu parles du détail en zoomant.
Ben, on augmente le flou, on augmente le bruit si on fait ça, si on va trop loin. Donc, un bon truc, c'est de visionner sa photo à 100% sur son écran.
Ouais.
Et non pas fit to screen, je ne sais pas comment dire le terme.
Ouais, d'ajuster la taille de l'image par rapport à la taille qu'on peut afficher. Ouais,
il faut la regarder à 100%. Ça veut dire qu'on ne la verra pas au complet.
Il faut
mais...
zoomer dans la photo. Là, vraiment,
ouais, il faut vraiment mettre ça à 100% pour voir c'est quoi le vrai rapport des pixels ensemble.
Mm-hmm.
Si on trouve que la photo est belle à 100%, on va pouvoir rentrer dedans un petit peu.
Mm-hmm.
On va le voir tout de suite, de toute façon, à l'œil. Alors, voilà.
Parfait. Merci, François. Et on va enchaîner maintenant avec la critique de l'imprimante Canon PIXMA MX922.
Je dois tout de suite faire un petit avertissement. Je ne l'ai pas eu plus qu'une semaine. Ça a été une semaine extrêmement, extrêmement chargée de ma part. Fait que oui, j'ai eu le temps de la vérifier, de faire quelques tests, mais j'ai pas eu le temps de l'approfondir énormément. Mais quand même, pour ce que j'ai réussi à faire avec, je pense que ça va quand même donner une bonne idée.
Mm-hmm.
Dans les choses intéressantes qu'on peut savoir tout de suite sur cette imprimante-là, c'est on parle de 15 pages par minute en noir, 10 pages en couleur. C'est plus que raisonnable.
Mm-hmm.
On parle de... Bon, c'est les classiques imprimantes multifonctions. Donc, on a le scanner, l'imprimante, le télécopieur sur celle-ci.
Okay.
On a la connexion sans fil, compatible avec AirPrint.
Mm-hmm.
Qui fait qu'on peut prendre notre téléphone iOS et imprimer directement sur l'imprimante. Ça fonctionne très, très bien. Je l'ai pris, facilement trouvable. Et même à partir de votre Mac, on peut facilement la trouver aussi et imprimer dessus.
Mm-hmm.
Il y a également une fonction pour Google aussi, que ça, par contre, j'ai pas eu le temps d'essayer.
Oui, Google Cloud Print.
Je l'ai pas essayé, celle-là. Fait, je peux pas dire... je sais que ça fonctionne, mais... Ce qui va... plus marqué, je dirais, de cette impression, de cette imprimante-là, c'est son poids et sa grosseur. C'est pas particulièrement petit. Elle prend beaucoup de place là, sur mon bureau. Là. Disons que c'est assez massif comme imprimante. Et le poids est assez significatif aussi. Là.
Mm-hmm.
Les impressions sont très, très belles. Les couleurs sont belles. On voit vraiment pas le point ou rien de ça. J'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien. Son seul défaut, puis je sais pas trop pourquoi, là, est-ce que c'est parce que pourtant j'ai fait tous les tests de calibration tout ça, mais je trouvais que quand on envoyait une commande d'impression, c'était très long avant que la commande démarre.
Okay.
Ça l'imprime très rapidement, mais ça pouvait prendre 15-20 secondes avant que l'impression commence.
Mais
je sais
il
pas
se passe
pourquoi.
Rien ou il y a
on entend les têtes se promener, on voit les choses se placer, etc. pendant okay. 10-15-20 secondes, puis oups, là ça part. Puis quand ça l'imprime, ça sort très très rapidement. Puis c'est aussi recto-verso. Mais ça, même ma vieille aussi le faisait, mais c'est quand même agréable. Je trouve ça quand même assez bien.
Mm-hmm.
Je dirais que bon, c'est une bonne imprimante. Elle a aussi une autre chose où. Que moi, j'aime beaucoup ce qui est des Canon, ce qui est à dire que les couleurs sont séparées. On a le noir, on a le bleu, on a le jaune, on a le magenta. En tout cas, ils sont comme 5.
Mm-hmm.
Fait que ça fait que quand on veut les changer, ben on change juste celle qui est vide. Moi, ouais, je trouve ça beaucoup plus agréable.
Intéressant.
C'est une bonne imprimante. Vraiment.
Puis tu as imprimé plusieurs formats de photos aussi dans tes tests?
Juste des 8x10, par exemple. J'ai pas fait de plus petites photos. Je sais que c'est relativement assez facile à faire. Là. On peut ajuster le bac en dessous, mettre les choses de la bonne grosseur, tout mm-hmm. ça. J'ai imprimé une 8x10, une photo, puis ça, le résultat était très, très bon. Là. Mm-hmm. J'ai trouvé que ça paraissait pas là, que c'était presque comparable à photo imprimée là,
dans un laboratoire.
Ouais, ben, t'sais, ouais. On voit la différence quand même, mais vite, là, mettre ça dans un cadre, là, je défie quelqu'un de voir la différence.
Oui, c'est ça, accroché au mur dans une chambre à coucher avec une petite vitre devant
c'est,
la
ça,
photo.
Ça fait très, très bien le travail, ouais, définitivement. Ouais. Fait que non, c'est une bonne imprimante si vous avez la place pour.
Et elle se détaille combien, cette imprimante?
200$. C'est quand même...
Bon, ben, c'est raisonnable.
Oui, c'est raisonnable.
Pour toutes les
c'est
fonctions.
Puis, exactement, puis... C'est ça, je dis, avec le télécopieur et tout, c'est très bien. Puis, ben, je l'ai dit, la fonction aussi sans fil.
Ouais.
Moi, ça, c'est sûr que ma prochaine va l'avoir, là, parce mm-hmm. que ça, c'est particulièrement avec un téléphone intelligent, c'est vraiment, vraiment commode.
Oui, oui. J'ai pas l'idée du prix des cartouches, mais c'est à vérifier parce que les imprimantes à jet d'encre souvent.
40-50 pièces, d'après moi, okay. à peu près, par 40-50$ par cartouche.
Il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Ça reste
non,
cher.
Ça reste
ben
assez
non, mais c'est ça, c'est quand même pas donné. Mais toutes les imprimantes à Jadang sont comme ça.
Oui, exactement.
Mais il suffit de vérifier quand même avant l'achat pour ne pas avoir la surprise par
puis
la suite.
Puis gênez-vous pas, le truc que je donne à tout le monde, vous pouvez prendre, si vous allez au bureau en gros ou quelques magasins quelconques, qui ont toujours leur marque maison, qui
ouais,
sont
les
moins
cartouches
chères,
compatibles.
Ça change rien. Mm-hmm. C'est généralement le même boîtier qu'ils reprennent puis qu'ils remplissent de leur propre encre. Puis vous pouvez d'ailleurs faire ça aussi. Je l'ai fait quelques fois aussi, puis c'est bien moins cher si vous voulez le faire.
Parfait. Et moi, de mon côté, je vais faire la critique de l'imprimante multifonction aussi, la HP Envy 120. Donc, ça aussi, c'est une imprimante couleur jet d'encre. Celle-ci, elle a deux cartouches, par contre. Une de noir et une pour la couleur. Elle sert de scanner, de numériseur, photocopieur, mais pas de fax. Par contre, comme la plupart des imprimantes HP, elle est compatible avec le fameux service ePrint. Donc, on peut imprimer en envoyant un email à l'adresse courriel de l'imprimante et elle devrait imprimer le document. Car mon imprimante laser, ce soir, ne l'a pas fait. Quand François m'a envoyé un email à mon adresse, je n'ai aucune idée pourquoi. Mm. Mais bon, je vais revérifier les paramètres. Ça n'a rien à voir avec la HP Envy, de toute façon. C'est une imprimante laser couleur... Pour mon travail. Mais celle-ci, la Envy 120, c'est un boîtier plutôt carré, angulaire, je dirais. Ça a l'air d'un espèce de gros lecteur DVD et avec un petit écran tactile sur le dessus. Et par contre, sur le ben, en fait, je dis sur le dessus, c'est à l'avant, parce que sur le dessus, c'est une vitre et on voit au travers donc le document qu'on va numériser ou photocopier. Ouh. Si on veut, là, ça fait chic. Et quand on l'allume, quand on met l'imprimante en marche, le petit panneau à l'avant où il y a l'écran tactile va se lever à 45 degrés avec un petit moteur. Là, ça fait ouais, ça fait très classe. Mmh. Et il y a une petite porte juste à la droite qui s'ouvre avec un port USB et un lecteur SD, MMC et MS Duo. Donc, pour mettre des cartes, évidemment, pour imprimer directement ses documents ou ses photos. Ensuite, bon, c'est, comme j'allais dire aussi, toutes les à part l'envoi par courriel, il y a aussi un accès au web où on peut aller chercher soit des dessins pour les enfants. On peut imprimer des dessins à partir d'un site qui est en collaboration, si on veut, avec HP. On peut imprimer des grilles de Sudoku, même des espèces de journaux avec des nouvelles. C'est en anglais, évidemment, mais si jamais... vous voulez traîner un petit journal d'une page ou deux avant de partir quelque part, c'est toujours possible de le faire. Bon, l'imprimante offre une fonction photocopieur, mais comme c'est une imprimante à jet d'encre, je ne recommanderais pas trop d'utiliser cette fonction-là là, autant que possible. Ce serait plus recommandé avec une imprimante laser, parce que sinon les cartouches d'encre, ça se vide vite. Le scanner est rapide, mais pas très paramétrable. On peut numériser vers un courriel, un ordinateur, une carte SD ou une clé USB, mais on ne peut pas changer la qualité de numérisation qui est de 200 points par pouce. Puis 200 ouais. points par pouce, c'est correct, mais c'est pas énorme. Par contre, les couleurs sont un petit peu off, comme je ne sais pas trop comment dire ça, mais elles ne sont pas exactement pile sur les couleurs originales. Je pensais que c'était parce que le couvercle est transparent puis que la lumière ambiante affectait le résultat. Mais non, même si j'avais mis un gros carton opaque là, sur le couvercle, des livres, peu importe, il n'y avait aucune lumière qui passait, ça donnait la même chose là, quand on numérise. Par contre, bon, côté photo, ça sort bien. Mon écran n'était pas calibré, donc je peux pas dire si c'était l'écran qui me donnait une couleur différente. Mais en tout cas, la photo imprimée et la photo à l'écran n'étaient pas exactement de la bonne couleur, mais la photo... avait de bonnes couleurs quand même, là, des couleurs attrayantes. C'était pas comme si je disais j'avais un orange puis il sortait brun. Là. Loin de là, l'orange sort orange, mais ça donne pas exactement la même teinte que sur mon écran, mais je soupçonne que ce soit mon écran. Mmh. Qui n'est pas calibré, et d'ailleurs, je vais le calibrer bientôt parce que c'est important quand on fait de la photo.
Vaguement.
Bon, côté papier, moi j'ai imprimé des photos en format 4x6, 5x7 et 8,5 par 11 parce que j'ai eu du papier de la part d'HP qui était des feuilles 8,5 par 11 et non du 8x10 comme on est habitué. Mais par contre, ça imprime super bien. On choisit le format format papier lettre, 8,5 par 11, puis on sort la photo, puis ça imprime très, très bien. Bon, comme je disais, les couleurs à l'impression sont un peu plus vives qu'à l'écran. Moi, mon écran, je l'ai mis peut-être un peu trop sombre, là, je ne sais pas trop, pour pas que ça me fatigue les yeux. Mais elles sont toutes bien sorties, à l'exception d'une seule où ma fille portait un maillot de ballet. Là, elle dansait, elle faisait des petits cours de ballet. Son maillot était rose et le maillot est sorti plutôt fuchsia. En tout cas, ça, je sais que ce n'était pas la bonne couleur parce qu'on a encore le maillot ici. Mais c'est vraiment la seule différence notable, là, je vous dirais, ou qui peut... qui m'a paru un peu moins agréable à l'œil là, par rapport à toutes les autres photos. J'ai sorti des photos de plage, des photos de n'importe quoi, là, des chaises rouges que j'avais vues à l'exposition des lanternes chinoises à Montréal il y a quelques années. Mais toutes les photos sortent bien, les ciels bleus, le sable de la mer, tout ça.
Mais il y a certaines teintes qui sont pas
Mais
exactement.
cette espèce de rose-là est mal sortie, j'ai aucune idée pourquoi. Donc, enfin, ce sera à voir. Mais ce que ça m'a permis de réaliser aussi en faisant mes tests, c'est que c'est très important de toujours sélectionner le type de papier utilisé avant d'imprimer. Parce que moi, j'avais sélectionné du papier Advanced qui appelle plutôt que Everyday, parce que mes feuilles 8,5 par 11, c'était du papier Everyday, donc de tous les jours, là, de HP. Et il y avait des traces de superposition d'encre qui étaient assez apparentes là, après l'impression. C'était vraiment. Puis là, je me suis dit, oh, l'imprimante n'est pas très bonne pour des photos en grand format. Et non, ce n'est pas le cas. Quand j'ai pris le bon format de papier, c'était impeccable. La photo, même en 8,5 par 11, là, est sortie super nette, super belle. Et j'ai pris. Je vais publier des exemples même de ma photo ratée, justement, pour dire prenez le bon papier parce que c'est important. Dans le cas de l'imprimante HP, en tout cas parce que la Canon, je crois pas que ça a fait une
Non,
différence, c'est ça.
non.
Mais il y a certaines imprimantes où c'est vraiment important de prendre le bon type de papier. Et bon, c'est ça. Une fois le bon type choisi, là, ce que j'aurais dû faire au départ, mais que j'avais oublié parce que j'ai pas l'habitude d'imprimer des photos chez moi.
Ben, ça permet de souligner que c'est important le type de papier.
Oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est une bonne imprimante, quand même assez compacte et même qu'on pourrait mettre à la limite, même dans son salon. Tu sais, quelqu'un qui habite un loft ou peu importe, là, ou un petit appartement, peut le laisser presque sur son meuble audio-vidéo
Est assez
parce que,
design pour ça.
oui, c'est ça. C'est noir, puis c'est quand même assez carré, puis il n'y a pas, tu sais, le truc le bac où on met les feuilles ne sort pas à moins que l'imprimante soit allumée ou tu sais, des trucs du genre. Donc, ça peut se confondre dans un décor ou même dans un bureau. Ça peut être chic quand même. Il y a des bureaux plus huppés, si on veut, ou je ne sais pas trop, un bureau d'avocat ou un truc comme ça. Mais ça peut se fondre dans un décor comme ça. Et bon, tout fonctionnait bien. J'ai essayé aussi les petites applications, là, comme je disais, avec les pages à colorier pour les enfants, des choses comme ça. Par contre, bon. Le seul petit bémol, c'est que le fameux journal de nouvelles là, qui s'appelle le Times Digest, c'est des nouvelles. Ben, en tout cas, j'ai vu principalement c'était des nouvelles de sport et autres, mais je conseille pas d'imprimer ça en raison du gaspillage de papier que ça occasionne, là. Il y a des bien meilleurs journaux disponibles sur le web et qui n'impliquent pas l'abattage d'arbres. Mais bon, pour la photo et même pour des documents à la limite que vous devez imprimer. C'est une bonne imprimante là. Et elle se détaille à environ 200 à 220 $ cette imprimante-là, là, selon où vous l'achetez. Et comme dernier segment, Christian va nous faire la critique du Panasonic GF6.
C'est pas le premier micro 4 tiers que j'utilise, mais je dirais que c'est la première fois que je tombe vraiment en amour avec un micro 4 tiers. Je pense que j'ai trouvé vraiment un appareil qui me plaît énormément. Vraiment, là. On va parler un petit peu de ses spécifications. On parle d'un capteur, comme je disais, 4 tiers de 16 mégapixels, qui est le même que dans le GX1 de Panasonic, qui est leur modèle le plus haut de gamme, je pourrais dire. Celui avec lequel. Moi, j'ai testé avec l'objectif 14-42 f3.5 à 5.6, qui était correct. C'est le moyen, là. C'est le même objectif de base pour toutes les choses. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. c'est le premier écran tactile. C'est pas un vrai multitouch, mais pas loin. Ce qui est à dire qu'on peut utiliser les deux doigts pour faire des zooms, etc.
Okay.
Mais c'est pas aussi précis et pas aussi rapide qu'un cellulaire.
Okay.
Mais quand même,
ça fonctionne.
Ça fonctionne très très bien. Okay. C'est 1.1 million de pixels. On a le Wi-Fi, on a le NFC.
OK, oui.
Ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, le NFC, c'est la chip qui permet, dans ce cas-ci, c'est de transférer. Exemple, moi, j'ai ma tablette, ma Nexus 7. Ça m'a permis de transférer mes photos directement de l'appareil photo à la Nexus 7 sans avoir à configurer rien. J'ai juste tapé l'un sur l'autre et paf, les photos étaient dedans.
Wow.
Très le fun. C'est assez plaisant. On parle aussi, bon, 1080p à 30 images par seconde, ISO jusqu'à 25600, démarrage en moins de 0.5...
Une demi-seconde.
Une demi-seconde. Vraiment, puis c'est un appareil qui est assez joli, je trouve. En tout cas, moi, le design m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'il était bien fait, les contrôles étaient bien placés, tout ça. Solide, encore une fois, on voit que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est de
une bonne construction.
Ouais, une bonne construction. C'est pas quelque chose de bas de gamme, là. Il est pas donné, mais on a l'impression d'en avoir pour son argent. La qualité visuelle m'a vraiment impressionné. Je l'ai vraiment traîné pendant un bon bout de temps, prenant beaucoup de photos en vacances, et j'ai vraiment été impressionné des photos qu'il a réussi à avoir. C'était vraiment intéressant. Comme je disais, l'écran tactile, là, c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable à utiliser, parce que oui, bon, On parle d'écran tactile, mais tant qu'on n'a pas le multitouch, c'est pas vraiment intéressant.
Mm-hmm.
On retourne en arrière, dans le fond. On se dit, ouais, tu sais, quand tu dis, ah, yeah, oui, je peux toucher, mais... Ah, OK, ouais, je peux pas faire de zoom. Lui, au moins, on peut.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelque chose. Puis, bon, il y a le classique qu'on peut faire le focus en cliquant sur la zone. On peut prendre juste le focus, on peut faire la photo de cette façon-là. Tout ça est disponible. L'ISO est assez performant. J'ai pris des photos à ISO 1600, puis c'était assez propre, franchement. Là, je trouvais ça très bien. Puis même à 3200, il est encore utilisable.
Mm-hmm.
Fait que je trouve que pour un appareil de cette catégorie-là, c'est bon. Il est très, très rapide à démarrer, comme on disait. C'est une demi-seconde. Puis à focuser aussi, très bon focus, assez précis, assez rapide. Le NFC et le Wi-Fi, parce que j'ai essayé les deux sont faciles à configurer, parce que ça, c'est souvent le problème majeur, le Wi-Fi en particulier. Ouais. C'est compliqué. Là, il faut... Mais ça, là, c'est quand même assez bien. Bon, on active le Wi-Fi, on se connecte sur le téléphone à partir de la tablette ou d'un cellulaire. Bon, il faut l'application, par contre, là, mm-hmm. mais encore là...
Mais la plupart, c'est comme ça. C'est Olympus, ça. Sony, c'est
exactement. Tout comme ça. Puis on se connecte avec, puis après ça, il garde la connexion.
Ah.
Il la garde en mémoire. Fait que okay. La prochaine fois qu'on veut le refaire, tu fais juste cliquer dessus, puis oups, ta reconnexion se refait.
Ah, c'est bien.
Vraiment, les menus sont quand même assez bien expliqués, assez bien placés. J'ai eu de la misère à trouver quelque chose de négatif à dire. Sincèrement, là, la seule chose négative que je peux dire, c'est le prix. Puis c'est pas un mauvais prix, c'est juste trop cher pour mes moyens. Mais c'est pas un mauvais prix, on parle de entre 650 et 750.
Ah ben c'est bon.
C'est quand même assez raisonnable. Il y a une grosse disparité entre les prix, vraiment, si vous voulez acheter quelque chose magasiné, parce que sincèrement, je l'ai vu à 600$ aux États-Unis, puis même avec... Il y a des sites super intéressants qui te permettent de calculer même le prix que ça va te coûter avec le shipping et tout le kit. Puis même à certains endroits, c'est ça, ça valait quasiment plus la peine de le payer aux États-Unis puis de le faire venir ici que de l'acheter ici, parce que je l'ai vu jusqu'à 750-800, là, fait que...
Ben, je connais quelqu'un, justement, un auditeur, cette semaine, il se magasinait un Sony Nex 3, je pense, ou Nex 5, je suis pas certain.
Nex 3,
hein, tu l'as vu sur Twitter.
Ouais.
Et... chez Adorama, je pense, il était vraiment pas cher. Il était comme 300 quelque chose. Puis s'il l'achetait sans trop magasiner, au Québec, il était jusqu'à 450$.
Ouais, c'est ça, puis, c'est une grosse
finalement,
différence.
Par le temps qu'il finisse de voir si peut-être il allait l'acheter ou pas, ben, il en restait plus. Mais
ouais.
Enfin. Désolé, Fred, ça arrive.
Ça arrive. Mais en tout cas, non, c'est ça. Mon expérience avec cet appareil-là a été vraiment très, très, très positive parce que j'ai trouvé ça agréable à avoir, tu sais, un appareil un peu plus léger à traîner pendant plusieurs jours.
Puis, mais c'est pour ça que j'adore, moi, mon Nexis.
Ça fait longtemps que je dis que j'en veux un deuxième appareil. Là. C'est juste c'est les moyens et tout ça. Puis avec la famille, les enfants,
c'est sûr.
Ça passe en deuxième. Mais à un moment donné... lui, il vient de tomber dans ma mire. Là. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet appareil-là. Puis, ce qui est plaisant, ben, Panasonic ou Olympus, c'est une large gamme d'objectifs disponibles.
Mm-hmm.
Fait que,
c'est vrai. Ça, c'est un gros avantage.
Définitivement. Définitivement. Fait que je le recommande...
chaudement.
Chaudement. C'est le mot que je cherchais. Je le recommande chaudement.
Parfait. Ah ben, merci beaucoup. Merci, Christian.
Merci Stéphane.
Merci François.
Merci Stéphane.
Et merci à vous, chers auditeurs. Déjà 38 épisodes. On s'approche de la quarantaine.
Le Big Four O.
Oh oui. Il y en a déjà ici qui ont passé la quarantaine, par exemple.
Ouais, hein? Et ouais, ben ça doit être l'âge qui fait en sorte qu'il n'a toujours pas rejoint Twitter ou Google Plus.
Oh.
Il y a de la misère, de la difficulté à suivre la technologie.
Ben trop difficile.
Non, je viens te rejoindre dans quelques jours. Non, en fait, c'est déjà fait au moment de publier. Alors, j'ai rejoint la quarantaine, moi aussi.
Eh oui.
Ah, voilà. Alors, pour nous rejoindre, pour vos questions, commentaires, suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. En fait, pour le défi photo numéro 6, le défi porte sur les moyens de transport. Donc, bateau, auto, train, scooter,
billot de vélo. Bois sur la rivière.
Billot de bois sur la rivière.
Eh oui, la
j'en donne un défi si quelqu'un arrive à le faire, celle-là.
Ça va être un Québécois.
Chine, oui, oui.
En Chine, il y a plusieurs, je ne sais pas c'est quoi le nom de ces petits bateaux-là ou canaux ou plateformes, mais c'est 3-4 billots de bois attachés ensemble. Puis c'est comme, tu sais, il y a la mode. Oui, un radeau à quatre troncs d'arbres. Ils sont debout avec une longue tige, okay. Puis that's it.
Ça peut être, si vous passez par Venise aussi, ça peut être...
Ouais.
Enfin, donc, moyen de transport et le gagnant se méritera un prix de 500pix.com, un abonnement d'un an au plan Awesome!
Awesome!
Et dans le cas d'une égalité dans les votes, si jamais deux photos recueillent le même nombre de votes, nous serons trois juges, donc il y aura peut-être soit unanimité ou deux contre un pour déterminer la photo gagnante, mais c'est arrivé une fois, je pense.
Je pense que c'est arrivé une fois, seule fois. C'est ça, ouais. Juste être préparé pour être sûr s'il arrive une situation en encore un coup.
Bien pensé. Donc, voilà, vous nous faites parvenir votre photo à défiphoto@objectifnumérique.com et vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter à @onumérique, Facebook et Google+, Objectif Numérique. Merci, à la prochaine!